Espagne, une législature sur le fil du rasoir. Les élections du 23 juillet en Espagne ont donné naissance à un parlement difficile à gouverner. Le parti de droite, PP, et son partenaire d'extrême droite, Vox, n'ont obtenu que 170 sièges, 137 plus 33, respectivement, ce qui, ajouté au soutien des régionalistes de Navarre et des îles Canaries, deux députés de plus au total, n'a pas suffi pour atteindre la majorité absolue au Parlement espagnol, qui est de 176 sièges. Face à cela, la coalition gouvernementale qui avait gouverné lors de la législature précédente est tombée à 152 députés, 121 pour le PSE, 31 pour Sumar. Cependant, Pedro Sanchez pouvait espérer obtenir non seulement l'appui des différents partis qui le soutenaient jusqu'alors, R, Bildu, PNV, BNG, totalisant 171 sièges, mais aussi celui des régionalistes canariens, et, surtout, celui de Jean, le parti indépendantiste de droite dirigé par l'ancien président de la Généralité, Carles Puigdemont, qui s'est réfugié à Bruxelles en 2017, après la proclamation et la suspension immédiate de l'indépendance de la Catalogne. Pour obtenir le soutien de Jean, Pedro Sanchez devait accepter les exigences de ce parti et de son leader, qui allaient au-delà de celles du parti indépendantiste catalan de gauche, R, ou de Bildu, le parti indépendantiste basque de gauche, qui avait été satisfaite en 2019. À l'époque, les deux principales concessions avaient été la réforme du code pénal espagnol, pour alléger les peines des dirigeants indépendantistes condamnés, et, lorsque les tribunaux n'ont pas interprété la modification législative dans les termes souhaités par le gouvernement, la grâce des politiciens emprisonnés et leur libération. Jean a donc exigé et obtenu d'une part, la présentation au Parlement d'un projet de loi d'amnistie qui, s'il est approuvé, permettra d'effacer tous les crimes qui auraient été commis pendant le processus d'indépendance, entre 2012 et 2023, et d'autre part, la création d'un processus de négociation, en Suisse, entre le PSE et Jean, sous l'égide d'un médiateur international, le diplomate salvadorien Francisco Galindo Vélez, afin de vérifier l'application des accords signés par les deux parties, et explorer les possibilités d'organiser un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Face à ces demandes, Pedro Sanchez avait deux options, choisir de retourner aux urnes, en soulignant que, contrairement à l'image que ses adversaires tentent de donner de lui, ses principes l'empêchaient de les accepter, et essayer d'améliorer ses résultats électoraux, afin de dépendre le moins possible des partis indépendantistes, nationalistes et régionalistes, en particulier de Jean, un parti avec lequel le PSE a très peu d'affinités idéologiques, ou accepter de négocier et trouver un compromis. Au vu des informations qui ont filtré sur le déroulement des négociations entre le PSE et Jean, il est clair que, même avant les élections du 23 juillet, Sanchez avait déjà à l'esprit un rapprochement avec les indépendantistes de droite, au cas où leur soutien serait nécessaire après les élections. Le président pensait également pouvoir convaincre son parti et l'opinion publique espagnole que ces concessions étaient justifiées par l'objectif de maintenir la gauche au pouvoir et celui de réintégrer pleinement les indépendantistes catalans à la vie politique espagnole. Sanchez a réussi à faire taire les nombreuses critiques qui ont émergé au sein du PSE au cours des négociations, telles que celles de l'ancien président Felipe González, de l'ancien vice-président Alfonso Guerra, du président de la région de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ou de la maire de Palencia, Myriam Andrés, qui se sont prononcés contre l'amnistie. Les députés socialistes, dont la position dépend directement de la volonté du secrétaire général du PSE, ont accepté en silence la nécessité de voter une loi d'amnistie, alors qu'il existe de nombreuses déclarations de députés du PSE, à commencer par Pedro Sanchez lui-même, opposé à l'amnistie. Au sein de l'opinion publique espagnole, la négociation entre le PSE et Jean a provoqué une érosion de l'électorat socialiste, comme en témoigne la publication il y a quelques jours par El País d'un sondage selon lequel, pour la première fois depuis les dernières élections générales, le PP et Vox obtiendraient ensemble la majorité absolue. La raison principale de cette érosion n'est probablement pas tant le texte du projet de loi d'amnistie qui contient de solides arguments juridiques pour justifier la constitutionnalité de la mesure, en citant de nombreuses sources de droit espagnol et international, mais plutôt, au contraire, le texte très maladroit de l'accord entre le PSE et Jean, dans lequel le Parti socialiste utilise le langage de l'indépendantisme catalan pour décrire le processus de séparation que celui-ci préconise depuis des années, ce qui a suscité un énorme malaise non seulement au sein de la droite espagnole, ce qui était prévisible de toute façon, mais aussi chez de nombreux socialistes, qui ont perçu l'accord comme un abandon difficile à digérer. En politique, si un acte unifie vos adversaires et divise vos partisans, il vaut mieux y renoncer. Sanchez a choisi l'option contraire. Dans ses premières interviews après son investiture, le président du gouvernement s'est efforcé de faire de nécessité, vertu, en indiquant que, bien qu'il n'aurait pas choisi l'amnistie s'il avait eu une totale liberté d'action, elle devrait faciliter l'amélioration de la coexistence en Catalogne entre pro- et anti-indépendance, coexistence qui s'était déjà améliorée ces derniers temps. En même temps, le PSE veut faire passer dans les semaines et les mois à venir des lois sociales qui lui permettront de vendre à son électorat les bénéfices de la reconduction du gouvernement de gauche. Le principal inconvénient de la stratégie du gouvernement est que le processus d'amnistie va dévorer l'essentiel de l'attention médiatique pendant toute l'année 2024, même si le PSE et ses alliés parviennent à faire passer la loi au Congrès le plus rapidement possible, le PP, qui dispose de la majorité absolue au Sénat, y retardera le passage de la loi autant qu'il le pourra, pour finir par voter contre et la renvoyer au Congrès des députés, qui l'approuvera finalement, sauf surprise majeure, mais au bout de 6 mois au minimum. Comme si cela ne suffisait pas, une fois le traitement politique achevé, le chemin de croix judiciaire de la loi commencera. Non seulement le PP, selon toute vraisemblance, déposera un recours en inconstitutionnalité, qui n'a pas d'effet suspensif, mais divers juges qui traitent actuellement des affaires liées à des crimes commis à la suite du processus d'indépendance catalane déposeront également une question d'inconstitutionnalité, et ces questions paralyseront le caractère exécutoire de la loi d'amnistie. Le traitement de toute cette batterie de recours devant la Cour constitutionnelle occupera le reste de l'année 2024. Le PP et Vox accompagneront ce processus politique et judiciaire de la loi d'amnistie par des mobilisations publiques et médiatiques et des alertes constantes à la fin de la démocratie espagnole en raison de l'accord conclu avec Puigdemont, le fugitif. Dans une certaine mesure, le discours extrémiste de la droite favorisera Pedro Sanchez, comme cela a été le cas jusqu'à présent, mais faire reposer la réussite d'une politique sur l'extrémisme de l'opposition est un pari très risqué. L'intention de M. Sanchez est en tout cas très claire, obtenir l'approbation des budgets pour 2024 et 2025, avec le soutien des forces qu'il a réunies lors de l'investiture, en pensant que les indépendantistes catalans devront continuer à soutenir le gouvernement tant que l'amnistie n'aura pas passé le filtre de la Cour constitutionnelle, ce qui pourrait bien ne pas se produire avant le début de l'année 2025. Étant donné que, selon la loi espagnole, le budget peut être prolongé au moins une fois sans vote, cela lui permettrait de prolonger la législature jusqu'au début de l'année 2027, ce qui ferait de lui le premier ministre qui sera resté le plus longtemps à ce poste, depuis Felipe González. Toutes sortes de turbulences politiques pourraient survenir d'ici là, et elles sont parfaitement prévisibles. La première, nous l'avons vu dès cette semaine, est la rupture de la coalition Sumar, abandonnée par 5 députés de Podemos, mais comptant de la répartition du pouvoir résultant de l'accord de coalition et de la perte d'influence que leur parti a subie de ce fait. Bien qu'il soit peu probable que ces 5 députés fassent tomber le gouvernement, leur sécession ajoute une nouvelle pièce au puzzle des négociations de la législature. La deuxième turbulence majeure prévisible se produira dans quelques mois, lors des élections régionales basques, où les 2 partenaires du gouvernement dans la région PNV et Bildu vont se disputer la victoire. Le PSE devra décider lequel des 2 soutenir, ce qui ne manquera pas de susciter le ressentiment du partenaire qui n'aura pas été choisi, et la tentation pour ce dernier de retirer son soutien aux socialistes ou, à tout le moins, de leur rendre la tâche plus difficile. La troisième grande turbulence prévisible se produira quelques mois plus tard, lors des élections régionales en Catalogne, où, si l'on en croit les sondages, le PSE l'emportera et devra décider s'il opte pour un partenariat de gouvernement avec R ou avec Jean, en supposant que ces derniers ne rééditent pas l'accord de gouvernement indépendantiste qui était en vigueur en Catalogne entre 2015 et 2022. Une fois de plus, quel que soit le choix des socialistes, le partenaire de danse et conduit sera tenté de laisser tomber le gouvernement, en particulier une fois que la loi d'amnistie sera validée par les tribunaux. Une autre turbulence prévisible, aux effets profonds, sera le retour de Puigdemont en Catalogne après l'amnistie, et le ton, presque certainement fanfaron, sur lequel il s'exprimera. Tout ce que l'on sait des actions et des déclarations du personnage garantit que ce retour sera perçu par une grande partie du reste de l'Espagne comme une humiliation. Au cours de la législature précédente, la formation de majorité stable pour faire passer le budget de l'État et les projets législatifs les plus importants du gouvernement de coalition a été particulièrement difficile, car les préférences des partis de gauche tels que Sumar, R, Bildu et le BNG ont dû être conciliées avec celles d'autres partis du centre ou du centre-droit tels que le PNV. Si l'on ajoute à ce bloc déjà instable un parti clairement de droite comme Jean, et le parti le plus à gauche de la Chambre, Podemos, agissant séparément de Sumar, il est très probable que la production législative de cette législature sera inférieure à celle de la précédente, précisément au moment où Sanchez aurait besoin de lois audacieuses et progressistes pour se faire pardonner sa loi d'amnistie par son électorat. Dans cette législature, le gouvernement espagnol dépend, pour faire passer chaque loi, de partis non seulement éloignés idéologiquement les uns des autres, mais aussi du PSE. Ce sera, par définition, une législature instable, et elle pourrait déboucher, lorsqu'elle se terminera, tôt ou tard, sur une alternance à droite. Le président Sanchez est en poste depuis 5 ans et demi, qu'il le veuille ou non, il est très probablement confronté à sa dernière législature. Il a certes, souvent défié les lois de la gravité politique, mais il est probable que sa performance au cours des 2 ou 3 prochaines années déterminera non pas la capacité du PSE à continuer à gouverner, que le nombre d'années qu'il devra passer dans l'opposition après ce mandat.